They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲达美加
正忙碌着。正忙碌着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Ruquigny, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Nouvelle semaine, nouvelle série consacrée au mensonge, l'art du mensonge industriel, aux faux profils sur Internet, en passant par les mensonges d'État et autres théories du complot. Et ce matin, de Volkswagen à Saint-Loup, des firmes de petite vertu.
Volkswagen, das Auto.
We have totally screwed up.
Je serai clair, notre compagnie a été malhonnête avec les autorités environnementales américaines et avec vous tous. Pour le dire franchement, on a vraiment déconné.
Je suis infiniment désolé que nous ayons déçu la confiance. Je m'excuse profondément auprès de nos clients, des autorités et de l'opinion publique dans son ensemble pour cette faute.
Ça ne me plaît pas du tout. Premièrement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et deuxièmement, je pense que les entreprises ne devraient jamais mentir à leurs clients. C'est mal.
J'en avais une il y a quelques années, mais honnêtement, si je dois en racheter une, j'y réfléchirai à deux fois.
Das Auto.
Il s'agit maintenant de faire preuve d'une totale transparence, d'expliquer l'ensemble de ce processus.
Fais un mensonge, cache-moi la vérité.
Une totale transparence, nous disait Angela Merkel. 11 millions de véhicules trafiqués pour pouvoir mentir lors des tests anti-pollution. Une vaste tricherie dont manifestement les laboratoires s'étaient rendus complices. Les mesures sur le niveau d'émission d'oxyde d'azote étaient bien en dessous de la réalité. Le scandale est énorme. L'entreprise allemande, vertueuse par excellence, a trompé tout son monde. Et manifestement, cela se savait en haut lieu. En témoigne des échanges datant de 2013 entre des commissaires européens. Mais que reproche-t-on à Volkswagen? L'impact environnemental et sanitaire ou le mensonge en tant que tel? Autre entreprise, et cette fois inhabituée des scandales, Monsanto, la toxicité du Roundup a maintes fois fait les gros titres des journaux, mais cet herbicide phare de la firme américaine est encore largement répandu de l'Illinois au Malawi en passant par l'Argentine, et ce malgré les scandales en cascade. En mars dernier, pourtant, son principe actif, le glyphosate, était classé comme cancérogène probable par l'OMS. Monsanto, naturellement, s'en défend furieusement et surprise encore, eh bien, les avis scientifiques en la matière divergent. Des scientifiques qui nous mentiraient, mais dans quel intérêt? Comment les industriels camouflent des preuves scientifiques de la nocivité de certains de leurs produits? Dans quelle mesure ces deux affaires révèlent une science asservie, pervertie par certains industriels? Voilà les questions autour desquelles nous allons nous interroger ce matin. On ira du côté de la Chine, où le scandale du lait frelaté impliquant l'industrie agroalimentaire Sanlu a eu pour effet notable de détourner la population chinoise des produits fabriqués en Chine. Dans un pays où la santé publique est un souci majeur, les entreprises se risquent-elles encore à manipuler les faits? On en parlera tout à l'heure avec Jean-François Dufour. Et puis, continent asiatique toujours, l'éthique individuelle et organisationnelle est une notion que l'on dit constitutive de la société nippone. Cette culture éthique impacte-t-elle le fonctionnement des entreprises? On en discutera tout à l'heure avec Karine Nishimura, poupée correspondante AFP à Tokyo. Mais d'abord, pour évoquer toutes ces questions de Volkswagen à Saint-Loup, ces firmes de petite vertu, nous avons invité un journaliste, journaliste scientifique au Monde, c'est Stéphane Foucard. Bonjour Stéphane Foucard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc journaliste au Monde et puis auteur de cet ouvrage qui était paru il y a 2 ans, La fabrique du mensonge, sous-titré « Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger », qui était paru chez De Noël. Alors on va peut-être commencer, Stéphane Foucard, avec Volkswagen. La semaine dernière, vous avez entendu que les Européens se sont mis d'accord sur des nouvelles normes de pollution pour ces moteurs diesel. Les véhicules devront dorénavant être testés en conditions réelles d'abord et non plus sur, comme c'était le cas, une plateforme de roulage. La Commission de Bruxelles a introduit des marges de tolérance un peu plus larges, des normes d'émissions qui ont été multipliées par 2,1. C'est une manière, peut-être, d'oublier le mensonge de ces constructeurs automobiles et d'adapter aussi les normes en fonction des véhicules, alors qu'on pourrait imaginer peut-être naïvement que ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Enfin bon, votre regard, Stéphane Foucard, sur cette affaire, on a comme un sentiment quand même d'une grande connivence sur cette affaire entre les politiques et les industriels automobiles.
Moi, la chose qui me frappe et qui me paraît tout à fait intéressante dans le cas de cette affaire Volkswagen, c'est que ce qui a finalement passionné les médias, ce qui a fait scandale, c'est d'une part le fait qu'une entreprise était attrapée la main dans le sac, a fabriqué de manière active un dispositif technique destiné à tromper les régulateurs, d'une part, et d'autre part que finalement cette affaire a conduit à une perte de valeur. C'est ça qui a choqué finalement les gens, c'est que tout d'un coup, l'EPA, hein, donc l'Agence pour la protection de l'environnement américaine, s'est saisie de cette affaire. L'affaire est devenue officielle, donc avec des mesures de rétorsion économique aux États-Unis. Et c'est aussi un des aspects de ce scandale. C'est-à-dire que ce qui a choqué les gens, finalement, ce qui a choqué les médias, ce n'est pas tant l'impact sanitaire de cette tromperie, mais plutôt son impact économique. C'est-à-dire le fait que ça allait coûter de l'emploi, ça allait faire plonger l'action de Volkswagen en bourse, donc ça allait tromper les porteurs, les investisseurs, etc. Ce qui est, de mon point de vue, intéressant, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mmh, mmh. Et on le voit avec la décision européenne de multiplier par deux les plafonds d'émissions d'oxyde d'azote des véhicules diesel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que ce n'était pas seulement Volkswagen qui a triché dans son coin, c'est que les tests réglementaires eux-mêmes étaient une tromperie. Et ils étaient une telle tromperie qu'il est devenu et qu'il est impossible d'imaginer aujourd'hui techniquement hein, qu'on puisse mettre sur le marché des véhicules diesel qui répondent à des normes fixées en 2007. Mmh, mmh. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du mensonge, si on peut appeler ça.
Il y a une autre chose qui est frappante quand même, Stéphane Foucard, dans cette affaire, c'est que évidemment tout ça a été, en tout cas pour ceux qui étaient un petit peu au courant, qui connaissaient bien cette industrie, c'est un secret de polichinelle. En fait, de nombreuses personnes en avaient connaissance. Alors les dirigeants, évidemment, mais pas seulement, les ingénieurs, etc. Et finalement, le mystère, c'est comment se fait-il ? C'est quasiment un miracle que cette affaire ait mis tant de temps à sortir.
Oui, c'est effectivement un miracle. Je pense que c'est le révélateur d'une forme d'anesthésie des médias et de la société face à la réglementation, face à une réglementation qui s'appuie sur des éléments complexes. C'est compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui sort d'un pot d'échappement. Bien face à une réglementation complexe, la société est anesthésiée. On n'a pas la force, la société civile, les médias n'ont pas la force d'aller contester la véracité, le caractère vérace d'une réglementation. C'est ça la question. Et c'est pour ça que cette affaire Volkswagen a fait tant de bruit. C'est que là, en plus d'une réglementation trompeuse, on a fabriqué un dispositif technique pour tromper encore plus quelque chose qui était déjà trompeur.
Et alors là, on peut faire peut-être une critique des médias. Nous sommes l'un et l'autre journalistes. Parce que vous me disiez avant cette émission qu'on parle beaucoup, très souvent en France, de mensonges d'État. Mais là, il s'agit de mensonges finalement d'entreprise. Et finalement, les médias ne sont peut-être pas armés aujourd'hui pour faire face à ce type de phénomène.
Oui, je pense que les médias ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés culturellement. Mmh. Et ils ne sont pas armés d'un simple point de vue de ressources humaines. S'intéresser à la véracité, à l'honnêteté d'une réglementation complexe, ça prend beaucoup de temps. Ça prend des gens un peu spécialisés, ça prend des gens qui vont pas faire du flux, qui vont pas faire 10 articles par jour, d'une part. Et d'autre part, culturellement, moi je crois que, en tout cas c'est mon hypothèse, je crois que les médias en France se sont construits dans l'après-guerre, par opposition à l'État, après la trahison de Vichy, et que, quelque part, les médias d'une manière générale se posent comme une sorte de rempart face aux dérives de l'État, et beaucoup moins face aux dérives de l'industrie. La situation est très différente aux États-Unis, où, bien que les États-Unis soient le pays de la libre entreprise, du capitalisme triomphant, eh bien, la presse est beaucoup plus vigilante sur ces questions de mensonges industriels.
Et si on reste sur l'échelle européenne, est-ce qu'on voit des différences par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aussi à l'Allemagne, peut-être là, il y a ce scandale Volkswagen, mais en réalité, les Allemands ont l'habitude de voir éclater ce genre de scandale. Il y a eu notamment la Deutsche Bank aussi, qui a régulièrement fait parler d'elle et pas toujours pour de bonnes raisons.
Alors je connais moins bien la presse allemande. Il me semble que la presse britannique est beaucoup plus active hein, sur ces questions. Hein. Le Guardian, par exemple, a lancé en amont de la COP21, la conférence sur le climat qui doit se tenir à Paris en décembre, toute une campagne qui est véritablement une campagne pour débusquer le mensonge industriel des extracteurs, des industries extractrices et des industries fossiles, et qui est une campagne d'ONG hein, pour participer au mouvement de la société civile pour le désinvestissement, c'est-à-dire pour inciter les investisseurs à ne plus mettre d'argent dans les industries extractrices. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à faire accepter en France. Je crois qu'il y a là vraiment un fossé culturel entre le monde anglo-saxon et le monde latin.
Pour en finir, Stéphane Foucard, avec cette affaire Volkswagen, normalement, donc apparemment les tests en conditions réelles multiplieraient par 4, c'est ce que nous disent certains experts, les taux d'émission de gaz toxiques, là on les a relevés d'à peu près un facteur 2, 2,1. Ça veut dire que normalement sur le papier, si les industriels respectent cette fois scrupuleusement les taux qui sont autorisés par la Commission, on a quand même des modèles de véhicules qui a priori devraient tout simplement disparaître.
Oui, effectivement. Oui, effectivement.
Ça veut dire que normalement, pourrait s'enclencher derrière ce scandale une véritable mutation du secteur automobile.
C'est effectivement ce qui pourrait se produire en théorie. Maintenant, comme on le voit avec la décision européenne qui malgré tout reste relativement peu astringente, il y aura toujours le chantage à l'emploi, le fait que, et c'est vrai, on a des usines qui fonctionnent pour produire des moteurs diesel qui pourront pas être changés du jour au lendemain pour fabriquer autre chose. Donc à l'évidence, on est coincé maintenant, on est dans un coin hein, clairement dans cette histoire de diesel. On a instrumentalisé la réalité scientifique de ce que c'était un moteur diesel, ce qui est connu depuis les années 60. On sait depuis les années 60 que les moteurs diesel, ils émettent des oxydes d'azote et des particules fines. C'est quelque chose qui est connu. On s'est assis, on a mis ça sous le tapis. Maintenant, aujourd'hui, on le paye.
Alors, vous ouvrez votre ouvrage, Stéphane Foucard, en faisant référence aux travaux d'Emmanuel Todd, qui, dans son ouvrage La chute finale, pressant la fin de l'URSS grâce à une démarche de démographe, qui consiste en gros à souligner les évolutions, disons, défavorables de la société, relativement à un certain nombre d'indicateurs, le taux de mortalité, de suicide, la prévalence, l'alcoolisme. Son postulat était simple, rappelez-vous, une société technicienne dont la technique n'est plus mise au service du bien-être et de la sécurité de vie de ses citoyens ne peut perdurer face à un système concurrent. Or, vous dites qu'aujourd'hui, contrairement aux apparences, en tout cas quand on regarde par exemple justement l'indicateur de l'espérance de vie, vous dites la santé globale elle n'est pas sur une pente ascendante comme on pourrait l'imaginer. D'ailleurs, il suffit de regarder l'espérance de vie en bonne santé qui ces dernières années en réalité a reculé. Et vous écrivez, le terme d'espérance de vie dans son acception populaire est intrinsèquement trompeur. Il postule sans le dire que les conditions de mortalité seront identiques dans l'avenir à ce qu'elles ont été jusqu'à présent. Or, nous savons que c'est faux. Ce que vous dire, c'est que l'assertion selon laquelle l'humanité va mieux puisque notre longévité a augmenté, c'est un mensonge, c'est une tromperie.
C'est une forme de tromperie dans la mesure où finalement l'espérance de vie, ce qu'on appelle l'espérance de vie, c'est l'estimation à un instant T de la durée de vie moyenne. C'est la durée de vie moyenne, c'est-à-dire c'est l'âge moyen auquel les gens meurent à un instant T. Les progrès qui ont été faits depuis l'après-guerre sont considérables de ce point de vue-là, sur cet indicateur, et il n'est absolument pas question de le nier. Ce qui s'est produit, c'est que depuis ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, hein, depuis l'après-guerre, le système technique qui a été mis en œuvre a été globalement extrêmement favorable à la qualité de vie, au confort de vie, etc. etc. Et on arrive aujourd'hui à un point où le système technique commence à produire des effets délétères. Parce que la chimie de synthèse a pris beaucoup de place dans nos vies, parce qu'on a émis beaucoup de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que le changement climatique commence à se faire sentir de manière assez forte. Je crois que ce point d'inflexion, il a été rendu possible par une forme d'instrumentalisation de la réglementation, ou en tout cas une manière d'ignorer certains constats scientifiques. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple du changement climatique, qui est l'exemple le plus simple et peut-être le plus d'actualité, ExxonMobil, hein, le grand pétrolier américain, aujourd'hui on sait, parce qu'on a des documents internes qui ont fuité, que dès 1977, donc 11 années avant la création du GIEC, les chercheurs, les scientifiques du département de recherche et d'ingénierie d'ExxonMobil produisaient des rapports à l'intention de leur hiérarchie, pardon, dans lesquels ils disaient de manière extrêmement explicite et extrêmement certaine que le changement climatique, le réchauffement, allait se produire. En 1982, donc toujours 6 ans avant la création du GIEC, on a des papiers internes d'ExxonMobil qui disent que ce réchauffement pourrait être potentiellement catastrophique. 1982. Dans les 20-30 ans qui ont suivi, ExxonMobil a été le principal financeur de ce qu'on appelait le mouvement climato-sceptique, hein, dont on voit encore la queue de comète aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement qu'à un instant donné, les connaissances ne sont pas prises en compte par la société. Elles sont quelque part mises sous le tapis, elles sont cachées et elles produisent en fait des catastrophes d'ampleur globale.
Alors justement, elles produisent des catastrophes, parce que c'est pour ça aussi que je faisais référence à ce travail d'Emmanuel Todd, c'est que à l'époque, finalement, ça avait fait tomber le système parce qu'il y avait un système alternatif en face. Aujourd'hui, le capitalisme s'est imposé partout. Il n'y a pas de système alternatif.
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de système alternatif. Le seul système alternatif, c'est de réparer notre propre système. C'est-à-dire c'est de réparer notre système. Alors, il y a énormément de choses à faire. Et la première chose, de mon point de vue, peut-être une des premières choses à faire, c'est de réparer nos instruments de régulation. Les instruments par lesquels nous régulons l'activité industrielle, l'activité technique, les instruments par lesquels nous évaluons les risques techniques, tout ça, il faut le réparer.
Mais toute la question est de savoir si précisément le système a la capacité de se transformer lui-même. Dans le cas du RSS, il ne s'est pas transformé de l'intérieur. Il est tombé.
Il est tombé lui-même, exactement. Oui. Non, je ne pense pas que notre système tombera. Il peut se dégrader de manière régulière et constante.
Il peut se transformer.
À mon avis, il a la ressource pour se transformer.
Vous rappelez, Stéphane Foucard, que la science et la technique, c'est pas la même chose. La science cherche à comprendre le monde et son organisation. La technique, elle, finalement, cherche à tirer profit de ses connaissances. Et clairement, finalement, toutes ces controverses qu'on dit souvent scientifiques, qui concernent tous ces sujets, que ça soit Volkswagen, que ça soit les perturbateurs endocriniens dont on parlera peut-être, finalement, tout ça relève de cette tension entre science et technique. Pour les industriels, attaqués par la science, il faut créer de l'incertitude, donc de l'ignorance. Il faut détruire du savoir. Donc le mensonge, l'ignorance, c'est le moyen par lequel la technique combat la science.
On peut présenter les choses comme ça. L'exemple séminal, en quelque sorte, c'est celui de l'industrie du tabac, qui est relativement méconnue en France, d'ailleurs, bizarrement. C'est l'industrie du tabac qui, au milieu des années 50, invente, en réalité, toute cette boîte à outils par laquelle on va retourner ce qui fait la démarche scientifique, c'est-à-dire le scepticisme, la recherche d'exactitude, la prise en compte de la contradiction. Eh bien, on va retourner ces éléments de la démarche scientifique contre la science elle-même. Pour prendre un exemple simple pour fixer les idées, pour montrer un petit peu l'ampleur de ce que peut produire un mensonge industriel, en 1954, il y a déjà dans la littérature scientifique suffisamment de données qui montrent que, ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs, les goudrons qui se trouvent dans les cigarettes commercialisées à l'époque aux États-Unis, eh bien, quand on les met à l'intérieur de nos poumons ou des poumons d'animaux, eh bien, ça provoque des tumeurs. C'est une des causes majeures du cancer du poumon. En 1954, on sait ça. Pendant une décennie, l'industrie du tabac va faire tout ce qu'elle peut pour instrumentaliser la science, pour acheter des pseudo-experts, pour financer des travaux qui vont faire ce qu'on appelle de la recherche de causalité alternative, c'est-à-dire de documenter en fait tout ce qui peut provoquer le cancer du poumon ou des troubles respiratoires et qui n'est pas la cigarette. Tout ça pour diluer la perception du risque dans l'opinion, mais aussi chez les régulateurs. Et il faudra attendre 10 ans, 1964, avant que la cigarette soit déclarée comme un facteur important de cancer du poumon. Et quand on regarde la quantité en trop qui a été consommée, la quantité de cigarettes en trop qui a été consommée entre 1954 et 1964, c'est-à-dire si on faisait démarrer la décroissance de consommation de cigarettes en 1954, eh bien, on se rend compte qu'en 10 ans, il y a 8000 milliards de cigarettes en trop qui ont été consommées aux États-Unis. Et 8000 milliards de cigarettes en trop consommées aux États-Unis, ça équivaut à 8 millions de morts.
This is a man who smokes Marlboro cigarettes. I always smoke when I work. They go together. Would you recommend Marlboro to your friends? I already have. New Marlboro. Filter, flavor, popular filter price.
Et vous avez peut-être reconnu cette douce musique, justement. Publicité pour Marlboro, donc finalement les maîtres de la production de l'ignorance, ces cigarettiers Stéphane Foucard, hein, puisque c'est ce que vous expliquez, c'est que ces entreprises ont réussi à institutionnaliser parfaitement le mensonge pour combattre la science. Et alors, étonnant, moi je ne savais pas, il y a un domaine scientifique qui est consacré à l'ignorance, qui s'appelle l'agnotologie, un terme inventé par un historien des sciences, Robert Proctor.
Absolument, Robert Proctor, qui est l'auteur de ce petit calcul de Cointable que je citais à l'instant, ouais. C'est 8 millions de morts en trop entre 1954 et 1964. L'agnotologie, c'est une discipline, c'est plus qu'une discipline, c'est plutôt une manière d'envisager les disciplines que sont la sociologie des sciences, l'épistémologie, la philosophie, et qui cherche à dessiner les contours de ce que nous ne savons pas. Robert Proctor part du principe que l'épistémologie a une vision du monde dans laquelle finalement l'humanité serait avec une torche et avancerait dans l'obscurité, et puis la lumière portée par cette torche nous révélerait de nouveaux continents de connaissances et de savoirs ignorés. Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une façon de voir les choses qui conduit à voir cette torche comme étant portée effectivement vers l'obscurité, mais divers processus en masquent la lumière. Et à certains endroits, eh bien, le savoir n'apparaît pas. Le savoir reste caché. Il y a toute une géographie de l'ignorance qui se dessine et qui est souvent le fait d'une instrumentalisation du savoir par les grandes entreprises.
Alors, on a parlé de Volkswagen, on a parlé des cigarettiers. Je voudrais qu'on parle du Roundup. J'en ai parlé un petit peu dans mon introduction. Alors, la ministre de l'écologie s'est exprimée sur ce désherbant. C'était il y a quelques mois, c'était au mois de juin dernier. Écoutez, c'est Ségolène Royal.
Il faut arrêter les pesticides. Il y a d'ailleurs maintenant des maladies professionnelles qui sont reconnues chez les viticulteurs, chez les ouvriers viticoles. Tous les problèmes de cancer liés à l'absorption, à la respiration des pesticides. Alors, je crois que la France doit être à l'offensive sur l'arrêt des pesticides. Et d'ailleurs, elle doit être aussi à l'offensive sur l'arrêt des pesticides dans les jardins. Et je vous annonce que j'ai demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup.
Voilà, on arrête le Roundup. Vous avez, la semaine dernière, Stéphane Foucard consacré un article au Roundup, justement, cet herbicide utilisé en épandage, produit par Monsanto, qui est à nouveau au cœur de la polémique. Le classement du glyphosate, dites-vous, principe actif de l'herbicide Roundup, comme cancérogène probable à l'OMS, en mars, a eu l'effet d'une bombe aux réactions furieuses de l'influent fabricant Monsanto. Se sont mêlés les avis étonnamment contradictoires des communautés scientifiques. Nous parlez un peu de ce... cette vaste panique réglementaire, vous dites peut-être la plus importante de l'histoire récente.
Oui, alors panique, pourquoi panique? Parce que le glyphosate, le Roundup, c'est simplement le pesticide. C'est le pesticide le plus utilisé au monde. Son utilisation a été portée ces dernières années par l'adoption massive sur le continent américain et en Asie des cultures, ce qu'on appelle Roundup Ready, hein, des cultures transgéniques qui sont modifiées pour pouvoir tolérer cet herbicide. Alors ce qui était très intéressant finalement dans ce sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des avis scientifiques, ou prétendument scientifiques, qui sont portés par des agences de régulation, ou une agence de l'OMS, comme vous l'avez dit, le Centre international de recherche sur le cancer, pourquoi ces avis divergeaient. Si on regarde un petit peu le panorama, on a d'une part le CIRC, donc, qui nous a dit en mars que le glyphosate était un génotoxique de manière certaine et probablement cancérogène pour l'homme. Et dans le même temps, c'est-à-dire exactement au même moment ou presque, vous avez le BFR, hein, l'Institut d'évaluation des risques allemand, qui procédait à la réévaluation décennale du glyphosate, qui nous dit absolument pas. Le glyphosate n'est pas un génotoxique, n'est pas un cancérogène, il ne pose aucun problème. Et le BFR, hein, donc l'Institut allemand, proposait même de relever les seuils de sécurité d'environ 60%, ce qui est quand même assez extraordinaire. D'un côté, vous avez quelqu'un qui vous dit « il y a tellement pas de problème qu'on peut relever les seuils de sécurité », et de l'autre, quelqu'un qui vous dit « ah ben non, il y a un problème de génotoxicité avec ce produit ».
Là-dessus arrive un troisième groupe d'experts.
Troisième groupe d'experts à l'OMS, un groupe d'experts joint entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui s'appelle, ce groupe d'experts s'appelle le JMPR, enfin peu importe, c'est un groupe d'experts qui travaille sur les résidus de pesticides dans l'alimentation et qui dit, comme le BFR, non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec le glyphosate, il n'est pas génotoxique, il n'est pas cancérogène, il n'est rien du tout, il n'y a aucun souci. Et quand on tire le fil de cette histoire, on se rend compte de quelque chose qui n'est pas très surprenant, c'est que, bizarrement, les panels d'experts qui donnent des avis favorables sont des panels dans lesquels on trouve des conflits d'intérêts, c'est-à-dire soit des experts qui sont directement salariés par l'industrie, comme c'est le cas en Allemagne, soit, comme c'est le cas pour le panel d'experts de l'OMS et de la FAO, des gens qui font partie du monde académique, hein, qui sont des chercheurs, mais qui ont des collaborations diverses et variées avec les industriels. Et évidemment, le CIRC, lui, a une méthodologie, un processus de sélection des experts dans lequel non seulement la compétence scientifique est examinée, mais également l'absence stricte de conflit d'intérêts. Donc on voit qu'un des moyens majeur qui a été mis à profit par le monde industriel pour tordre la réglementation, pour la mettre dans sa poche, pour la capturer en quelque sorte.
C'est de payer ses experts.
C'est simplement, tout simplement, de s'arranger pour que les panels d'experts soient favorables.
Et puis alors, évidemment, la réponse de Monsanto à l'endroit de l'OMS a été terrible. Je crois qu'il y a eu même un coup de téléphone à Margaret Chan, qui est la directrice de l'OMS.
Ah oui, ça a été très violent, d'ailleurs de manière inhabituelle. Là, Monsanto a carrément parlé de science pourrie pour parler du travail du cirque. C'est d'autant plus étonnant et amusant que la première évaluation scientifique des risques du glyphosate, qui a été réalisée en 1985 par l'Agence américaine de protection de l'environnement, donc 85, nous disait de manière extrêmement claire, bah oui, le glyphosate c'est un cancérogène. Alors de manière tout à fait stupéfiante et étrange, au terme d'une histoire assez obscure dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants, quelques années plus tard, l'EPA est revenu avec une nouvelle analyse de l'expérience qui avait été réalisée quelques années plus tôt, en disant telle tumeur n'est pas vraiment une tumeur du tubule rénal, celle-ci, est-ce que c'est vraiment une tumeur, on n'en sait rien. Une fois qu'on a retiré quelques-unes des tumeurs qui touchaient ces petites souris, eh bien les résultats apportés n'étaient plus statistiquement significatifs, et donc la voie était libre pour le glyphosate.
Oui, et puis vous rappelez aussi cette histoire, c'est il y a une quinzaine d'années, ce scientifique français, Robert Bellé, qui avait réalisé des travaux montrant donc une probable implication du glyphosate dans la cancérogénèse, donc dans le développement de ces cellules. Il avait même reçu, dites-vous, la visite d'un certain nombre de responsables du CNRS, qui avait trouvé ces recherches extrêmement intéressantes, qui lui avait dit de les poursuivre, mais attention, en toute discrétion, parce qu'il ne faut pas effrayer l'opinion, lui avait-on dit.
Oui, ce qui est toujours intéressant dans ces histoires d'expertise un peu fautives, c'est que quand on s'y intéresse vraiment, c'est-à-dire quand on va aller regarder dans la littérature scientifique ce qui est publié, eh bien, on se rend compte, bizarrement, que certaines études ne sont pas prises en compte dans les expertises. Alors, par exemple, pour le cas du BFR, la divergence avec le cirque s'expliquait de manière assez simple, finalement. Le BFR a décidé de tenir compte essentiellement des études fournies par les industriels eux-mêmes, et a beaucoup moins tenu compte des industriels qui sont publiés dans la littérature scientifique et qui sont réalisés par des chercheurs du monde académique qui, eux, travaillent pour acquérir de la connaissance.
Dites-moi, Stéphane Foucaire, à la fin de l'année, normalement, l'Union européenne devrait se prononcer pour savoir si on interdit ou pas le Roundup. Vous y croyez ?
Moi, je crois qu'il est absolument impossible aujourd'hui d'interdire le Roundup. C'est un peu comme le diesel.
Parce que ça pèse trop lourd, économiquement ?
C'est-à-dire qu'au niveau mondial, en 2012, c'était presque 750 000 tonnes de ce pesticide qui était utilisé dans le monde. C'est-à-dire que si vous retirez le glyphosate, vous retirez un instrument majeur de lutte contre les adventices, enfin les mauvaises herbes, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme l'a fait la France avec Ségolène Royal, cette décision de retirer le glyphosate des jardineries, c'est d'essayer d'éviter les usages qui sont non nécessaires du glyphosate. Maintenant, le glyphosate va rester dans le paysage pendant encore très longtemps.
Puis tout dernier point justement sur ce Roundup, parce que ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que les experts ont, avec cet avis, sans véritablement le vouloir, permis de stopper ce qu'on appelle le plan Colombie, qui était en gros un plan qui était financé par les Américains, où on épandait comme ça de l'herbicide pour lutter contre le narcotrafic. Et pendant des années, les paysans, les agriculteurs se sont plaints de tout ça, parce qu'évidemment, ça ne sélectionne pas véritablement les cultures uniquement de coca, ça allait très largement. Et pendant des années, il y a eu des mouvements, des pétitions, des contestations, etc. Ça n'a jamais rien donné, sauf que là, précisément, il a fallu arrêter.
Ouais, il a fallu arrêter.
C'est incroyable.
C'est une des premières décisions politiques qui a été prise à la suite du rapport du CIRC en mars. C'est-à-dire, en fait, la fin de ce plan Colombie, en tout cas de cet aspect du plan Colombie, qui était très controversé. Alors, il y a une petite histoire qui est amusante, je ne sais pas si elle est amusante, en tout cas, elle mérite d'être notée, c'est que le CIRC a pris en compte un certain nombre d'études pour établir son opinion. Et parmi ces études, il y en a une qui a beaucoup attiré l'attention des chercheurs du CIRC. C'est une étude qui a précisément été conduite sur des populations des hauts plateaux colombiens qui étaient soumises à ces épandages massifs de glyphosate. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont constaté que après les épandages de Roundup, eh bien les populations qui avaient subi ces vaporisations, ces pulvérisations, eh bien avaient des taux de lymphocytes anormaux qui étaient supérieurs à ce qu'ils étaient quand il n'y avait pas eu d'épandage. Et donc la génotoxicité, finalement, une des preuves de la génotoxicité de ce produit sur les populations humaines, elle a été obtenue précisément dans le cadre du plan Colombie.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour de l'art du mensonge. Aujourd'hui de Volkswagen à Saint-Denis, des firmes de petite vertu. Stéphane Foucard, journaliste scientifique au Monde, est notre invité. On va justement prendre la direction de la Chine. Le mois dernier, un grand groupe chinois ouvrait une nouvelle usine de lait ici en France. Le numéro 3 de la nutrition infantile s'est associé avec les maîtres laitiers du Cotentin. Cette alliance est une réponse aux besoins de sécurisation de son approvisionnement en lait après les scandales alimentaires à répétition qui ont secoué le secteur du lait ces dernières années.
La plupart des entreprises de production comme celle-ci où la sécurité alimentaire est défaillante appartiennent à l'État qui garde la mainmise sur la gestion alimentaire de la société et qui cherche à faire un maximum de profit. Quand les entreprises nationales ont de si gros problèmes alors que c'est l'État qui gère, qui régule et qui supervise, ce sont les hauts fonctionnaires qui devraient en assumer la responsabilité.
Alors cette voix, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est celle d'Ai Weiwei, artiste chinois dissident qui avait réalisé une installation à partir de milliers de boîtes de lait en poudre pour bébés, en écho évidemment à ces scandales sanitaires. Bonjour Jean-François Dufour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur de DCA Chine Analyse, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, Made by China, les secrets d'une conquête industrielle, la Chine au XXIe siècle, entre promesses et défis. Alors 2008, énorme scandale de santé publique en Chine, des lots de lait de consommation courante et de lait pour nourrissons contenant de la mélamine provoque des milliers de maladies. On apprend que des lots impropres à la consommation sont maquillés pour être revendus sur le marché. Il y a une vingtaine d'entreprises laitières qui sont touchées par cette affaire. La première d'entre elles, c'est Saint-Denis, qui est l'un des leaders de l'agroalimentaire chinois. Et en réalité, et c'est ça qui est intéressant aussi, Jean-François Dufour, c'est que l'affaire, elle ne va pas éclater de l'intérieur, mais elle éclate de l'extérieur. C'est parce que certains pays où le lait avait été exporté se sont rendus compte de la malfaçon que le subterfuge a été découvert, parce que l'information jusque-là était parfaitement retenue. Lorsque, par exemple, on faisait des recherches sur le moteur de recherche chinois Baidu, eh bien, ça vous expurgeait tous les résultats concernant le nom de cette fameuse entreprise Saint-Denis, par exemple.
Alors effectivement, c'est en 2008, en fait, lorsqu'éclate le scandale, on a une conjonction assez particulière en Chine, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a un certain nombre de mouvements qui viennent de l'extérieur, comme vous l'avez cité, mais on a également un certain nombre de rumeurs importantes qui courent en Chine également. Simplement, ce qu'on peut pas oublier, bien sûr, c'est que 2008, pour Pékin, c'est l'année des Jeux Olympiques. Et donc, le scandale, si vous voulez, intervient à un très mauvais moment pour les autorités, c'est-à-dire que l'idée, c'est de donner une image aussi parfaite que possible de la Chine, et le scandale va finir par éclater parce qu'il est trop énorme pour être caché plus longtemps, mais effectivement, on va avoir des efforts pour essayer de le masquer le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ce soit plus possible, justement.
Oui, parce que c'est la Nouvelle-Zélande, notamment, qui a fait savoir aux autorités chinoises qu'il y avait un problème. D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque avait directement prévenu son homologue chinois. Alors, il y a eu des condamnations dans cette affaire. La justice chinoise a fait son œuvre, et pas qu'un peu, j'allais dire, Jean-François Dufour.
Oui, effectivement, l'une des caractéristiques de la justice chinoise, c'est son caractère effectivement très répressif. Donc, comme dans toutes les affaires graves de ce type, il y a eu tout simplement des condamnations à mort de prononcer, puisque le scandale avait pris une ampleur extrêmement importante et touché très directement la population, parce que le fait, bien sûr, que les enfants soient touchés en avait fait quelque chose d'extrêmement sensible. Ceci étant dit, le problème, bien sûr, c'est que ça n'a pas répondu au problème systémique que soulignait ce scandale. Mmh.
Alors, dans cette affaire, il y a évidemment la responsabilité des entreprises, il y a la responsabilité des dirigeants, vous avez raison, il y a deux personnes qui ont été condamnées à mort dans cette affaire, il y a eu des condamnations de prison de 8 à 15 ans de prison, il y a le PDG de ce fameux groupe Saint-Denis qui a été licencié, et qui aujourd'hui est en prison à perpétuité. Alors, il y a les entreprises, mais il y a aussi l'administration de supervision qualitative. Est-ce qu'elle a été inquiétée ?
Alors c'est tout le problème justement quand je parle de problème systémique, c'est le problème chinois justement. Alors avec quand même un souci hein, de faire un petit rappel simplement, c'est d'éviter toute interprétation culturelle. Faut quand même se rappeler que ces scandales qu'on a en Chine aujourd'hui, on trouve les mêmes avec un peu de recul dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, en Europe au début du 19e siècle. Simplement on est aujourd'hui à l'ère de la société de l'information en Chine comme ailleurs et donc c'est beaucoup plus rapidement visible. Donc en écartant le facteur culturel, c'est important. Par contre, quand je parle de problème systémique, c'est qu'effectivement, la Chine est confrontée à un double problème sur ses industries agroalimentaires. C'est qu'on est d'une part dans une économie de marché socialiste, c'est son appellation officielle, dans laquelle effectivement l'État est supposé tout contrôler, donc du coup n'a pas recours à des organismes indépendants pour assurer un autre contrôle. Et on a un système extrêmement imbriqué, parce que les grands groupes chinois, même quand ils ne sont pas officiellement d'État, sont presque toujours liés avec des autorités locales. Et parallèlement, on a le paradoxe d'un système qui, en fait, manque de contrôle sur ses chaînes d'approvisionnement. C'était très net en 2008 dans le lait. Ça reste valable pour une partie de l'industrie agroalimentaire chinoise aujourd'hui. Et c'est la principale origine du problème.
Oui, oui, mais enfin, nous aussi, on a régulièrement des problèmes de contrôle. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jean-François Dufour, c'est qu'il y a bien sûr la responsabilité des chefs d'entreprise, mais il y a aussi finalement la structure même de l'économie chinoise qui fait que eh bien, les conditions du scandale étaient réunies. Ce lien entre État et monde de l'entreprise, c'est aussi ça qui explique cet énorme scandale, Jean-François Dufour.
Oui, tout à fait. C'est le revers du modèle chinois. C'est-à-dire que quand on parle d'économie de marché socialiste, on a des entreprises avec un modèle de fonctionnement privé et un État qui fonctionne main dans la main. Donc ça a des effets très positifs en termes de croissance, de développement. Après, en termes de contrôle, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où vous trouvez les mêmes personnes et les mêmes réseaux à un bout et à l'autre de la chaîne qui est censée être contrôlée et qui est censée la contrôler. Donc effectivement, du coup, on a des implications, par exemple sur l'affaire Sanlou. Sanlou avait une implication des autorités locales, notamment, qui était importante. Et mettre en cause cette entreprise, c'était mettre en cause à la fois le fonctionnement de l'État et le fonctionnement des autorités locales, ce qui explique en partie pourquoi on a freiné au maximum avant de révéler l'affaire.
Et en l'occurrence, le ministre de l'administration chinoise chargé du contrôle de qualité a dû démissionner, évidemment. Réaction, Stéphane Foucault, sur ce cas-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on parlait tout à l'heure de mensonges d'État, de mensonges d'entreprise, et de comment finalement la presse, les médias s'emparent de ces questions-là. On voit bien que quand la presse est, j'allais dire, quasiment absente, presque, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'instrument.
Oui, pour revenir à ce qui a été dit à l'instant, je ne crois pas qu'il faille d'ailleurs revenir aussi loin dans le temps pour retrouver des scandales de cette ampleur-là en Europe ou aux États-Unis. Rappelons-nous simplement à la fin des années 90, le scandale de l'amiante en France, avec le comité permanent amiante qui regroupe à la fois des responsables d'entreprise, des gens du monde de la santé publique mais qui sont à l'évidence stipendiés par l'industrie, des syndicats. Tout ce petit monde fait office d'experts alors qu'il n'y a aucune espèce d'expertise scientifique derrière. Il n'y a qu'une volonté de légitimer et de poursuivre l'usage de l'amiante. L'amiante, rappelons-le quand même, c'est plus de 100 000 morts. Plus de 100 000 morts prématurés en France, aucun procès digne de ce nom, aucune responsabilité, un rapport sénatorial qui parle d'une faillite, une faillite de l'État, hein, et c'est tout. Là, en Chine, ce qu'on voit quand même, c'est que ces questions de santé publique, hein, de sécurité sanitaire, prennent suffisamment d'ampleur pour que des condamnations à mort soient prononcées, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. Et on est encore aujourd'hui, en France, très loin de prononcer des peines de prison pour des scandales sanitaires qui, en termes d'ampleur, en termes de gravité, sont tout à fait aussi comparables.
Jean-François Dufour, s'il y a eu ce scandale, c'est aussi parce qu'il y avait de la corruption derrière qui permettait d'alimenter tout ça. Quand le président chinois, l'actuel président chinois, est arrivé au pouvoir, il a fait justement de la corruption l'une de ses priorités. Que ce soit d'ailleurs la grande corruption, la petite corruption, il avait eu cette formule, hein, on se battrait contre les tigres et les mouches, je crois que c'est l'expression qu'il avait utilisée pour parler des responsables du parti et des simples citoyens. Quel bilan est-ce que vous faites-vous, Jean-François Dufour, de la lutte, de la politique anticorruption du gouvernement chinois ?
Alors, la lecture est très ambiguë dans la mesure où vous avez deux interprétations possibles. Vous avez l'interprétation officielle avec un aspect tout à fait réel, hein, qui est un coup de frein à la corruption depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au pouvoir. Et puis, vous avez une autre lecture derrière qui consiste à savoir si cette lutte contre la corruption est déterminée par des convictions de principe ou plutôt par des luttes de factions à l'intérieur du Parti communiste chinois, puisque vous êtes dans un système d'État-parti dans lequel ce qui est déterminant, c'est les réseaux de pouvoir. Et tant que vous n'aurez pas de réforme systémique, on peut avoir des doutes sur l'éradication réelle de la corruption, dans la mesure où le système la favorise par définition. Donc on a aujourd'hui très clairement, depuis 3 ans, maintenant 2 ans en Chine, un effet très net de la lutte contre la corruption. Maintenant, quant à en déduire que dans quelques années, on n'aura pas d'autres réseaux qui se seront remis en place avec les mêmes modes de fonctionnement, à mon avis, on est très loin d'un résultat garanti.
Toute dernière question, Jean-François Dufour, avant de nous quitter. Est-ce que cette affaire du lait frelaté a eu quand même la vertu de sécuriser un peu le secteur de l'agroalimentaire chinois ou est-ce que pas du tout et il faut s'attendre à ce que, à nouveau, à l'avenir, on ait des scandales de ce genre, de cette nature ?
Alors, je dirais un peu les deux à la fois. Ça a incontestablement enclenché un mouvement avec des mesures qui ont été prises, avec un renforcement des contrôles, avec alors une évolution un peu paradoxale, mais c'est que les grands groupes chinois essayent en fait d'intégrer leur filière d'approvisionnement, parce que le grand problème, c'est les intermédiaires qu'ils avaient en amont. C'est de là que sont venus la plupart des problèmes. Et puis, un élément que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la recherche de savoir-faire à l'étranger. Alors, parfois de sources d'approvisionnement, comme pour le lait en France, et puis également de process industriels qui permettent de mieux maîtriser ces problèmes. Donc on a incontestablement un mouvement vers une amélioration. Après, le problème qui reste celui de la Chine dans un pays d'1,35 milliard d'habitants, c'est qu'on a affaire à un pays tellement énorme qu'il est difficile de tout contrôler et que malheureusement pour les Chinois, il est très peu probable que les scandales alimentaires soient quelque chose qui appartiennent au passé.
Stéphane Foucard, dernier mot sur ces scandales alimentaires ?
Oui, ce qu'on voit quand même se dessiner en Chine, c'est finalement un renforcement des contrôles, hein. C'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire en fait un renforcement du contrôle en aval de la réglementation et non pas en amont de la réglementation. De plus en plus, ce qui est en train de se poser comme problème, et on le voit avec l'affaire Volkswagen, mais aussi avec une variété de questions qui se posent, et notamment en Europe, que la question va de plus en plus devenir de s'interroger sur le bien fondé de la réglementation elle-même, c'est-à-dire d'un contrôle en amont de la réglementation. À mon avis, le problème à l'avenir va plutôt être celui-là.
Merci beaucoup en tout cas Jean-François Dufour de nous avoir éclairé. Je rappelle vos ouvrages Made by China et puis La Chine au 21e siècle. On mettra évidemment les références de vos ouvrages sur le site, sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Merci beaucoup à vous. On va prendre à présent la direction du Japon. L'un des derniers scandales en date, l'entreprise Toshiba qui a maquillé ses comptes minimisant les pertes du groupe afin d'être plus proche des objectifs fixés et de rassurer évidemment les actionnaires.
Je suis Isao Tanaka. Hier, le 20 juillet, nous avons reçu les résultats de l'enquête du comité d'experts indépendants. Ils montrent que les chiffres du profit de Toshiba ont été manipulés à la hausse pour plus $1 milliard entre 2008 et 2014. Et le rapport stipule que cela a été rendu possible grâce à une dissimulation systématique des vrais chiffres par les dirigeants.
Voilà, alors le patron de Toshiba a dû démissionner. Il y a un nouveau patron qui est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il a déclaré devant un parterre, une assemblée de près de 2000 personnes, notamment évidemment des petits porteurs. Nous nous excusons sincèrement pour avoir trahi la confiance des actionnaires et semé le chaos sur les marchés. Bonjour Karine Nishimura-Poupée. Vous êtes avec nous en direct depuis le Japon. Vous êtes la correspondante AFP à Tokyo. À chaque fois qu'il y a un scandale industriel comme celui-ci au Japon, on a le droit à ces excuses publiques. Les responsables font acte de pénitence, alors même qu'ils sont parfois carrément licenciés. Il n'est pas du tout question de se défendre. Il n'est pas du tout... On passe à la télé, on se confond en excuses. Les choses sont extrêmement ritualisées, Karine Nishimura-Poupée.
Ah oui, ça porte un nom même, ça s'appelle la Shazai Kaiken, donc ça veut dire la conférence de presse d'excuses en fait, et donc il faut les images pour les télévisions, il faut les images pour la une des journaux le lendemain matin, les photos des patrons se prosternant dire excusez-nous, oui, ça veut pas dire on a fauté, hein. Ça veut dire il y a eu un problème, voilà, et on s'excuse pour le problème. Maintenant, qui est responsable du problème, ça c'est autre chose. Et là, ce qui était hallucinant dans l'extrait que vous avez présenté, c'est que le patron de Toshiba, il dit « les patrons ont fauté ». Mais c'est lui le premier. C'est lui qui est accusé dans ce rapport d'expert, qui en plus est un rapport d'expert nommé par la direction de Toshiba pour enquêter sur Toshiba. On tourne en rond, c'est assez peu digne d'un pays qui a quand même été pendant des décennies la deuxième puissance économique mondiale.
Alors, ce
qui reste quelque chose de très difficile à expliquer, alors, le fonctionnement.
Il y a effectivement l'ancien patron qui est directement impliqué, mais dans ce cas-là, les trois dirigeants impliqués ont été licenciés et le nouveau patron, qui lui, en revanche, a été dédouané par l'enquête, alors, je ne sais pas si c'est vrai, tellement je trouve ça ahurissant, mais visiblement, il aurait reversé 90% de son salaire. Alors même qu'il n'est pas responsable.
Oui, bah oui, mais ça, c'est une façon de dire à la société, écoutez, on assume et puis on va reprendre les choses en main. Et voilà, on paye notre tribut pour cette erreur. Et donc, c'est très, très fréquent, en fait. C'est pas propre à Toshiba. C'est extrêmement fréquent que quand il y a un problème quelconque dans une entreprise, le patron soit supprime carrément son salaire, soit rembourse des années de primes. C'est arrivé récemment aussi chez Sony. Hein. Chez plein d'entreprises, comme ça, c'est une façon de dire à la société, ben, vous voyez, on fait pas que des choses mal, on essaye aussi de contribuer modestement à améliorer les choses.
Et voilà. De rattraper l'erreur qui a été faite. C'est vrai que c'est étonnant, Stéphane Foucard. Je pensais même que cette information était erronée tellement. Ça paraît insensé chez nous. On n'imagine pas un patron reprendre une entreprise alors même qu'il n'est pas du tout lié à une affaire et reverser 90% de son salaire. C'est incroyable.
Oui, c'est quelque
chez nous, ils font des erreurs et puis ils prennent des parachutes dorés.
Oui, je pense qu'il y a une différence culturelle qui est majeure entre le Japon et chez nous. Mais je pense que cette histoire pose aussi la question un petit peu plus large de savoir qui sait quoi, quand, à quel moment dans l'entreprise. Et quand on voit ces très grandes entreprises, hein, Toshiba ou d'autres, qui sont structurées autour de très longues chaînes hiérarchiques, à mon avis, tout ça pose quand même la question de savoir comment circule l'information dans ces chaînes hiérarchiques.
Ben, j'allais justement y venir, parce que c'est vrai, Karine Nishimura-Poupée, ce que révèle aussi cette affaire, c'est qu'on a des responsables qui demandent à leurs subordonnés de jongler avec les chiffres, de masquer les choses, ce qu'ils font sans broncher. C'est dire, finalement, le rapport de subordination extrêmement puissant qu'on a dans l'entreprise japonaise.
Alors, effectivement, et il y a deux aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, généralement, dans une entreprise japonaise, on a des gens extrêmement disciplinés, qui font exactement ce qu'on leur dit au moment où on leur dit et qui surtout ne bronchent pas, comme vous dites, ne s'opposent surtout pas à la hiérarchie. Parce que il y a une espèce de déni de responsabilité. On se dit que si on fait ce que la hiérarchie demande, eh bien, on n'est pas responsable. C'est la hiérarchie qui est responsable, puisque c'est elle qui a demandé. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le problème vraiment structurel des grandes entreprises japonaises, c'est que les gens qui sont à la direction à l'heure actuelle sont des gens qui sont tous entrés au même moment dans l'entreprise, qui ont mangé dans la même gamelle pendant des décennies, qui arrivent à l'âge de 50-60 ans aux postes les plus élevés. Parce qu'une espèce de progression comme ça, automatique, et ils ont tous exactement la même culture. Ils sont tous nourris de la même façon, et ils masquent ensemble toutes les erreurs. C'est une espèce de connivence interne que personne ne voit par ailleurs. Et ça, on l'a vu, par exemple, dans le scandale Olympus. Je ne sais pas si
vous j'allais vous en parler, parce que Toshiba, ils se sont fait prendre, mais Olympus, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont, pendant des années, quand je dis des années, c'est quand même deux décennies, pendant 20 ans, ils ont réussi à cacher quasiment des pertes de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Exactement, c'était le résultat d'un fiasco, hein. Pendant l'ère de la bulle, ils avaient placé de l'argent n'importe comment. Évidemment, tout ça, ça a tourné au fiasco total. Il a fallu planquer ces pertes-là. Et comme ils étaient tous dans une espèce, ils avaient tous mangé dans la même gamelle, comme on disait tout à l'heure, eh bien, ils ont continué comme ça à planquer les pertes jusqu'au jour où un patron est arrivé de l'extérieur. C'était un patron étranger. Et quelqu'un est venu lui mettre la puce à l'oreille en lui disant « il se passe des trucs bizarres quand même au sommet, il faudrait regarder ça plus en détail ». Et là, il a ouvert la boîte de Pandore. Il a découvert le poteau rose et ça a éclaté. Et du coup, ça a mis en exergue en fait ce fonctionnement un petit peu en autarcie des entreprises japonaises, mais pour autant, ça ne l'a pas résolu. Le scandale qu'on a chez Toshiba à l'heure actuelle, il ne serait pas étonnant de le voir ailleurs dans des très grosses entreprises japonaises. Et là, il est apparu comment, ce scandale? Par une dénonciation interne. Hein. Mais ce qui est encore plus étonnant, si vous voulez, et qui se produirait sans doute pas en Europe ni aux États-Unis, c'est qu'il n'y a toujours pas d'enquête officielle. Les enquêtes qui ont été menées, elles ont été demandées par Toshiba à des experts indépendants.
Ouais, donc
les autorités, elles, n'ont pas mis leur nez vraiment dedans.
Nous qui pensions que l'éthique dans le monde de l'entreprise nippone était exceptionnelle, en tout cas bien meilleure que chez nous, on voit que c'est loin d'être le cas. Stéphane Foucard, réaction ?
Oui, alors ce qui est très intéressant de voir, puisque depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du mensonge entreprise comme ayant des effets nuisibles, délétères, néfastes sur la société, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas l'entreprise, on se rend compte que la circulation de l'information à l'intérieur de ces grandes entreprises, elle est tellement fautive parfois qu'elle conduit à des situations où c'est l'entreprise elle-même qui en pâtit. Il y a une histoire récente qui est assez amusante. Il y a quelques années, au Monde, on a été contacté par un grand chercheur, un grand électrochimiste du CNRS.
Michel Armand.
Michel Armand, exactement. Qui nous a dit, écoutez, Renault s'apprête à construire une très grande usine à Flins pour construire des batteries qui sont des batteries lithium-ion, qui sont fondées sur l'oxyde de manganèse, et ces batteries sont fondamentalement instables, c'est-à-dire que elles sont pas sûres, les fabriquer en grande série, équiper toute une flotte de véhicules avec ça, ça va conduire à ce que une voiture sur 10 ou 15 000, flambe spontanément dans la rue. Alors, en plus, les feux chimiques sont très compliqués à arrêter, à éteindre. C'est pas du tout comme un feu classique, Donc, ça va dissuader les gens de se tourner vers cette nouvelle technologie, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris ça pour argent comptant. On est allé enquêter. On a passé des coups de téléphone à des chercheurs compétents, en France, mais aussi à l'étranger. On a regardé un petit peu ce qui se faisait dans la littérature scientifique et il s'était avéré que, effectivement, ces batteries, il y avait pas mal de gens qui pensaient qu'elles posaient problème.
Donc l'information était là.
L'information était là. L'information n'était pas très compliquée d'ailleurs à trouver. Il suffisait d'aller regarder dans la littérature scientifique et puis de parler avec quelques-uns des plus grands électrochimistes de la place.
Sauf que chez Renault, on ne l'avait pas fait.
Apparemment, chez Renault, en tout cas, on l'avait peut-être fait, mais l'information n'était pas parvenue jusqu'au sommet de l'entreprise, puisqu'il y avait ce projet qui était appuyé d'ailleurs sur un prêt à taux zéro de l'État de quelques 160 ou 170 millions d'euros. Bref, on a fait notre article dans Le Monde qui avait fait la manchette à l'époque. Alors, on avait beaucoup été moqués. Oui, marchand de peur, vous avez peur de tout, de votre ombre, etc., etc. N'empêche que quelques semaines plus tard, Renault abandonnait totalement son projet de construction d'usine de batterie à Flins.
Visiblement, l'information n'était pas remontée jusqu'à Carlos Ghosn.
Voilà, c'est ma théorie, je ne sais pas si elle est fondée ou pas, mais en tout cas, il me semble que, quelque part, il y a eu un problème dans la transmission de l'information le long de cette longue chaîne hiérarchique, puisque chaque échelon, finalement, transmet à l'échelon supérieur ce qu'il pense que l'échelon supérieur attend de lui. Ce n'est pas seulement, comme le disait Karine Poupé, à mon avis, une question d'injonction, c'est aussi une question de transmettre à son supérieur ce qu'on pense qu'il a envie d'entendre.
C'est très vrai
Karine Nishimura-Poupé, dernière réaction.
Oui, c'est très vrai dans le mode de fonctionnement des entreprises japonaises, de ce que vous dites, à savoir qu'on transmet au supérieur ce qu'on pense qu'il attend de nous. Ça, c'est très, très juste. Donc, ce double mécanisme de répondre à la hiérarchie selon les instructions qu'elle donne et de donner des informations qu'on suppose qu'elle attend, eh bien, effectivement, ça peut aboutir à des catastrophes industrielles.
Merci beaucoup, en tout cas, Karine Nishimura-Poupé. Je rappelle votre ouvrage « Les Japonais » qui était paru chez Talendier en 2008 et qui a été réédité cette année. Voilà, un grand merci à Karine Nishimura-Poupé, à Jean-François Dufour et un grand merci à vous Stéphane Foucault de nous avoir accompagnés ce matin pour ouvrir notre série sur le mensonge qu'on poursuivra demain. Je rappelle votre ouvrage « La fabrique du mensonge », sous-titré « Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger » qui était paru chez De Noël. Everybody.